France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Nicolas Doutet. Dans une relation phénoménale, je pense que vous partez d'un fantasme d'auteur, voir une star hollywoodienne s'emparer de son texte, et vous le traitez avec un sérieux presque surréaliste.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
De quoi Julia Roberts est-elle le nom ? C'est l'une des questions que l'on pourrait bien se poser dans votre book club aujourd'hui. Dans son premier roman, Nicolas Doutet met en scène un jeune auteur dramatique qui, après avoir achevé sa toute première pièce, décide de l'envoyer à la star hollywoodienne. Quelques années plus tard, l'opuscule parvient à la comédienne. Julia est enthousiasmée, elle veut jouer l'un des deux rôles, pourtant masculin. Et pour savoir la suite, il vous faudra le lire, ce roman. De cette intrigue improbable, l'auteur tire un récit burlesque qui nous offre en creux quelques méditations sur le vrai et le faux et la façon dont la littérature rend ces catégories mouvantes. Il est notre invité. En fin d'émission, il sera question de littérature jeunesse. Raphaël Bott nous fait découvrir Lotta, l'héroïne de plusieurs romans d'Astrid Lindgren, l'autrice de Fifi Brin d'Acier. Puis on cherchera dans la musique, dans un livre, pour nous quitter en chanson. On est ensemble pour une heure et c'est bon de rire parfois. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Nicolas Doutet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce roman, Une relation phénoménale, c'est son titre. Il a paru aux éditions L'Arbre Vengeur. Si c'est votre tout premier roman, on est d'autant plus ravis de vous accueillir pour ça. On connaissait déjà votre travail d'auteur dramatique. Vous êtes l'auteur de plusieurs pièces publiées aux éditions Théâtre Ouvert et Séquée notamment. On a pu les voir dans des mises en scène d'Alain Françon, de Marc Lenné ou plus récemment d'Adrien Béal, entre autres, la toute dernière mise en scène par ce dernier, par Adrien Béal, s'appelle Dialogue avec ce qui se passe. Elle est en tournée en ce moment. C'est donc la première fois, par contre, qu'on lit un roman de votre plume et le lien entre l'écriture dramatique et l'écriture romanesque sera probablement au cœur de notre conversation tout à l'heure. Mais pour commencer, ici au Book Club, on a pour habitude de faire un petit portrait de nos invités d'abord en tant qu'ils sont des lecteurs, des lectrices. Est-ce que vous vous souvenez, Nicolas Doutet, dans quel paysage vous avez appris à lire ? Comment s'est passé votre rencontre avec les livres ? Est-ce que ça s'est joué très tôt pour vous ?
Ça s'est joué, la rencontre avec les livres, ça s'est joué, je pense, assez tôt. J'ai appris à lire à l'école, j'ai pas appris à lire avant, mais ça s'est joué assez tôt parce que mes deux parents étaient acteurs et donc il y avait beaucoup de livres à la maison. Des livres de théâtre, beaucoup. Je me souviens en tout cas surtout des livres de théâtre, des livres de poésie aussi. Ma mère, voilà, était une grande amoureuse, est toujours une grande amoureuse de Racine, des grands textes comme ça, Apollinaire, Michaud, enfin voilà, différentes choses. Et mon père, lui, concentré sur le cinéma, plus amoureux de cinéma, et donc on avait des grands volumes d'annuaires du cinéma, je sais pas, des dizaines d'années, voilà, qui occupaient une grande partie de la bibliothèque. Et puis, ce que ça faisait aussi, c'est qu'on voyait les livres, c'était des choses qu'on récitait, que je voyais mes parents réciter des fables, ma mère entamer des répliques de Molière, Corneille ou quoi. Donc c'était quelque chose de très concret. Et c'était aussi d'autant plus concret qu'il y avait d'autres types de textes qui venaient à la maison, qui étaient les scripts ou les pièces qu'eux recevaient, qu'on leur proposait. Voilà, et je les voyais donc lire ça, parfois être très enthousiastes et parfois pas du tout, et que ça les affectait vraiment, puisque ça affectait les mois à venir pour eux. Puis parfois, il fallait leur faire lire, répéter. Donc voilà, tout ça était très lié au réel, je dirais, à l'espace en dehors du livre.
Et c'est quelque chose que vous partagiez donc avec eux, si je comprends bien. Ça faisait l'objet de discussions, il vous arrivait de leur donner la réplique, c'était une activité partagée.
Absolument, oui. On aimait beaucoup avec ma sœur leur donner la réplique, faire apprendre, et ça que eux ne sachent pas. Alors que...
Vous auriez un souvenir, je ne sais pas, d'un texte en particulier, par exemple, que vous auriez, soit qui vous aurait récité ou qui récitait à l'époque, soit pour lequel vous auriez donné la réplique, par exemple ?
Je me rappelle beaucoup de mon père autour de la table de la cuisine à la maison où on dînait se mettre d'un seul coup à réciter des fables de La Fontaine et voilà, avec ma soeur, on trouvait ça réjouissant. Voilà.
Si on avance peut-être un peu dans le temps, est-ce qu'il y a eu des auteurs dans votre parcours de lecteur, indépendamment même peut-être des textes théâtraux, qui ont particulièrement marqué vos années d'adolescence, par exemple
À l'adolescence, assez vite, en fait, je me suis j'ai rencontré la poésie. J'ai eu un professeur au collège qui nous a donné un cahier de 100 poèmes, et on devait chaque semaine en apprendre un poème et le réciter. Et alors là, j'ai trouvé ça complètement formidable. Et quelques années plus tard, j'ai commencé à écrire de la poésie, et là, du coup, je me suis vraiment plongé dans la lecture. J'ai essayé de lire de plus en plus de poètes, de comprendre la différence entre Baudelaire, Nerval, Verlaine, enfin, je sais pas, voilà. Et puis vraiment à chercher à lire dans l'idée aussi de, dans l'idée d'écrire, en fait. Ça s'est assez vite mêlé, la lecture et l'écriture, autour de la poésie. Et puis après, en avançant encore un petit peu plus, mes premières grandes lectures romanesques, c'est Dostoïevski. Voilà, j'ai lu les grands romans de Dostoïevski en terminale, et ça a été formidable.
C'est frappant à vous écouter, Nicolas Doutet. On entend que quand même, très tôt, très vite, la question d'une forme de mise en oralité du texte, la récitation, le fait d'apprendre des poésies par cœur et de les dire oralement, ça a été quelque chose d'important pour vous. Et c'est évidemment quelque chose qui est très présent dans le roman dont on va parler tout à l'heure. Est-ce que vous sauriez dire ce que ça change à la lecture qu'on peut faire d'un texte, le fait de le dire à voix haute ou simplement d'avoir l'idée qu'on pourrait le dire à voix haute?
C'est une différence qui m'intéresse beaucoup, que je pense qui est infinie. On peut l'aborder de plein de manières différentes, mais qui m'intéresse beaucoup aussi dans le fait de passer du théâtre au roman, bien sûr, où dans un roman, les phrases restent dans le silence. Mais je pense qu'il y a quelque chose de... le fait que l'écriture ou que l'écrit devienne action, rentre dans le monde. Je ne sais pas comment dire, justement, quand je lisais Dostoïevski ou les premiers romans que j'ai commencé à lire, il y avait comme une difficulté avec le fait de me dire que ce que je lisais était totalement fictionnel et n'avait pas de... C'était comme ailleurs que dans le monde. Et je sais pas, ça me posait question.
C'est une question qui est vraiment pareille au cœur du roman. Il se trouve donc que vous avez fait des études de lettres et vous le disiez que ça a été aussi, enfin, que l'activité d'écrire du théâtre, elle a été présente en même temps dans votre vie assez tôt, assez jeune. Est-ce que le théâtre, vous en avez aussi beaucoup lu, indépendamment du fait d'en avoir vu? Moi, c'est quelque chose qui me passionne. Qu'est-ce qui se passe quand on lit un texte de théâtre? Parce que je trouve que c'est une lecture très particulière, que c'est très agréable de lire un texte de théâtre, bien sûr, d'en voir sur la scène aussi, évidemment. Mais il se joue quelque chose de particulier là-dedans. Est-ce que vous avez été un grand lecteur de théâtre, indépendamment même pour vos études? Et est-ce que vous sauriez dire qu'est-ce qui se passe dans la rencontre entre un texte de théâtre et un lecteur?
J'en ai beaucoup lu, alors plus tard, parce que j'étais vraiment concentré sur la poésie avant de m'intéresser au théâtre, mais j'en ai beaucoup lu, oui. J'ai l'impression qu'en fait, quand on lit un texte de théâtre, la scène est là. C'est-à-dire qu'on imagine des gens dire quelque chose sur scène. On n'imagine pas juste une fiction. Le présent de la scène, le caractère événementiel de la scène est là. Et ce que je trouve passionnant, c'est ce que ça fait à l'écriture. C'est-à-dire que c'est une écriture de face à face ou d'enchaînement. La question de comment on passe d'une réplique à l'autre, par exemple, et décuplé par rapport à comment on passe d'une phrase à l'autre dans un roman, peut-être. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose d'événementiel, je trouve, dans l'écriture théâtrale.
Ouais, c'est une histoire de temps. C'est une histoire de rapport au temps, du temps du lecteur, entre le temps du lecteur et le temps de ce qui se déroule sous ses yeux dans sa lecture.
Absolument, absolument, ouais. Et puis aussi, le lire du théâtre, je trouve, ouvre la voie à une littérature comique, qui est vraiment... Moi, j'ai passé des heures formidables à lire La Biche, Feydeau, et puis il y a beaucoup de pièces en plus, donc on peut vraiment se plonger là-dedans, c'est quand même réjouissant. Ouais.
Justement, je voulais vous demander, l'une des particularités du roman pour lequel on vous reçoit aujourd'hui, c'est qu'il a cette vertu assez rare de nous faire rire, mais vraiment rire par moments. Et je le répète, ça n'arrive pas si souvent, finalement, à la lecture d'un roman, de s'entendre prononcer une sorte de rire sonore. Est-ce que vous, dans la catégorie livres qui font rire, vous avez comme ça, à part Feydeau, que vous venez de citer par exemple, des grandes références ou des souvenirs de lecture?
Des souvenirs de lecture, j'ai vraiment des souvenirs de rire très fort en lisant certains textes de Beckett, certains des textes les plus radicaux de Beckett. Je pense à Watt, par exemple. Beaucoup de textes de Gertrude Stein aussi, qui moi me font beaucoup rire. En fait, beaucoup de textes qui s'autorisent à aller vers, à mêler quelque chose de l'ordre du sérieux ou de la recherche d'écriture et quelque chose de l'ordre de l'idiotie aussi, qui n'hésite pas à aller interroger des endroits de bêtises. Voilà.
Ouais. Vous avez consacré une thèse à Beckett, hein, dans vos études, vous avez été jusqu'à la thèse. Cette thèse, d'ailleurs, sa rédaction remonte à plusieurs années, mais elle a été publiée l'année dernière dans une édition accessible au grand public aux éditions Classique Garnier. Est-ce que vous avez réussi à ce moment-là, quand la littérature, le théâtre est devenu un objet d'étude, à garder un rapport de plaisir à la lecture, parce que la chose est peut-être pas si évidente quand la lecture devient du travail. Est-ce qu'on arrive encore à lire pour le plaisir ?
Ça a été une question, effectivement, sans doute que ça, le lien s'est un peu défait dans les dernières années de la thèse, où il s'agissait d'avancer. Après, ma thèse portait plus sur une question théorique. En fait, j'ai essayé de découpler la question de la lecture et du rapport aux auteurs et à l'écriture de la question théorique, aussi pour que la thèse soit le lieu, non pas un lieu de commentaire, mais un lieu où faire quelque chose, où proposer quelque chose. Mmh. Proposer une conception du rapport entre le texte et la scène, en fait.
Mmh. Est-ce que vous aviez, pour l'écriture de ce roman-ci, pour ce premier roman, ou peut-être de façon générale, lorsque vous écrivez des pièces, une sorte de bibliothèque à côté de vous qui vous accompagne des lectures dans lesquelles vous puisez inspiration, énergie? Est-ce que ça a été le cas, en tout cas, pour ce roman?
Alors, vu que je l'ai écrit très lentement, je pense que la bibliothèque a beaucoup bougé. Mais oui, j'ai des livres qui m'accompagnent, j'ai des livres auxquels je reviens. J'ai par exemple, je sais pour le roman là où il est question d'amitié, j'ai lu Aristote, Cicéron, Cavell aussi. Il est question d'Amérique, donc je me suis replongé dans Emerson, Thoreau. Enfin, voilà, j'ai des
la philosophie, donc des textes assez théoriques.
Plutôt des choses assez théoriques, ouais. Et puis je reviens quand même régulièrement dans la Cervantes, bien sûr. Je reviens quand même régulièrement dans Gertrude Stein, qui pour moi est une cure de jouvence à chaque fois que je la lis. Et puis voilà.
C'est intéressant que vous citiez des textes qu'on dit théoriques ou philosophiques, parce que votre roman il a cet effet assez étonnant de produire à la fois, on est pris dans une fiction, voilà, on le lit de manière simple, crédule, comme le lecteur qu'on est, et en même temps, il a cette chose un peu étrange et étonnante de produire une forme de réflexivité chez nous, de nous inviter à réfléchir à l'effet même qui est en train de produire le texte sur nous. Est-ce que, justement, il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous dans l'écriture, le fait qu'on a tendance à séparer, comme je l'ai fait moi-même, d'un côté l'écriture de fiction, le romanesque, de l'autre les textes théoriques. Est-ce que pour vous, au fond, les choses sont plus poreuses que ça ?
Je le souhaiterais, en tout cas, oui, absolument. Faire en sorte que... un texte de fiction, en fait, engage une expérience tout à fait réelle. Et comment mettre en jeu cette expérience ? Comment lui donner corps ? Comment la mettre au centre, en fait, de la relation, c'est-à-dire ne pas faire semblant qu'on parle d'autre chose alors qu'on est en train de faire une chose très concrète qui est lire ou s'adresser à quelqu'un.
Mmh. Est-ce que vous avez des livres sur votre table de chevet en ce moment ?
Je suis en train de lire La Correspondance de Cézanne.
Mmh.
J'ai beaucoup d'intérêt pour la manière dont les peintres, mais de manière générale aussi les artistes d'autres champs, se posent les questions de figuration ou... pour aussi voir comment est-ce que, en les traduisant en termes d'écriture, ça peut donner des choses inattendues. Je lis ça et puis je m'apprête à lire un livre de Frédéric Ildefonse qui est une spécialiste de l'Antiquité grecque sur la question, le fait que, d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas d'intériorité chez les Grecs. Le moi n'est pas pensé comme une intériorité.
Est-ce qu'il y a des auteurs avec lesquels vous avez l'impression d'avoir un rendez-vous, auteur que vous n'avez pas lu, autrice que vous n'avez pas lu, mais dont vous vous dites qu'un jour, il faudrait quand même que vous alliez voir par là ?
Je pense à Jean-Paul Richter, que je connais très mal, dont j'ai lu plusieurs fois qu'il était, paraît-il, le fondateur de l'humour, en tout cas une grande figure de l'humour en littérature, dans le romantisme allemand, début du 19e, et je ne connais pas. J'ai très envie de découvrir.
On va aller vers votre roman, Nicolas Doutet, dont l'une des qualités, je l'ai dit, est de nous faire rire. On a cherché des chansons capables de faire d'eux-mêmes. Notre camarade Léa Weissgruss a pensé à celle-ci. C'est une reprise par Philippe Catherine. Il se trouve que le refrain assez entêtant de cette chanson comporte un adjectif qui figure aussi dans le titre de votre roman. On l'écoute.
Il est vraiment, il est vraiment, il est vraiment la 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 la. Dans le journal, 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 dans le journal de Claire Chazal.
Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
C'est l'histoire d'un jeune auteur dramatique français inconnu qui, après avoir achevé sa toute première pièce, l'envoie un jour par la poste à Julia Roberts. Plusieurs années plus tard, le texte parvient à la star hollywoodienne, l'enthousiasme, et la comédienne décide d'œuvrer pour l'avoir porté à la scène. Voilà grossièrement résumé l'intrigue qui fait le point de départ de votre roman, Nicolas Doutet. Ajoutons le fait que vous partagez avec votre narrateur quelques qualités biographiques, à commencer par le fait que, comme lui, vous écrivez vous aussi du théâtre. Ce texte est une fiction, lit-on en préambule, exergue en forme de boutade, certes, mais on peut aussi l'entendre plus sérieusement. Ce texte est une fiction, non seulement parce que les faits qu'il relate ne sont pas tout à fait réels, mais aussi au sens où nous, lecteurs, nous lui accordons notre foi et sommes réellement pris dans son rythme et celui de ses personnages. La question de la vraisemblance s'efface par bien des aspects et ainsi se joue, pour finir, tout autre chose, mais quoi ? C'est ce dont on va parler avec vous, Nicolas Doutet, avec qui nous évoquons aujourd'hui ce livre, votre premier roman, donc il s'appelle « Une relation phénoménale » et il a paru aux éditions L'Arbre Vengeur. Je l'ai dit, vous partagez donc avec le narrateur du livre le fait d'écrire du théâtre. Vous êtes l'auteur de plusieurs pièces depuis de nombreuses années déjà. Pourquoi avoir eu l'envie, ou peut-être même le besoin, d'écrire cette fois-ci un roman ?
Ça faisait longtemps que je caressais l'idée d'écrire un roman. Je suis venu au théâtre depuis la poésie. J'écrivais de la poésie et puis je me disais qu'il y avait quelque chose dans ce que j'écrivais en poésie qui restait un peu lointain, un peu qui manquait de réalité ou d'activité, je sais pas. Donc je me suis dit, écrivons pour les acteurs. Donc j'ai investi le champ théâtral et le médium théâtral. J'ai essayé vraiment d'écrire pour le jeu et pour la scène, mais j'ai jamais perdu de vue le fait que moi ma question c'est la question de l'écriture. Et donc je me disais, ah mais il y a cet endroit-là que j'ai toujours pas tenté. J'avais écrit des petites nouvelles quand j'étais plus jeune, mais donc j'avais envie d'écrire un roman, ouais, depuis longtemps, d'expérimenter cet endroit d'écriture où les phrases sont vouées à rester dans le silence, comme on disait.
Vous avez mentionné le fait que c'est un roman dont l'écriture vous a pris assez longtemps. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a été particulièrement long dans ce travail-là ? Ou est-ce que, après tout, l'écriture des pièces est toujours long de toute façon ?
Je suis, de façon générale, assez lent pour écrire. Ça, c'est là, l'écriture de ce roman-là, ça s'est allé sur 6 ans. J'ai écrit quelques pièces entre-temps, mais il y avait quand même quelque chose aussi de l'ordre d'une nouvelle grammaire à comprendre. Par exemple, comprendre ce que c'est que lire un roman, qui n'est pas comme lire une pièce de théâtre ou proposer un texte pour des acteurs. Voilà, donc ça a pris beaucoup de choses. Et puis se rendre compte de l'écart aussi entre l'idée qu'on se fait de l'écriture d'un roman, puis ce qu'on écrit vraiment. Enfin voilà, tout ça, c'est beaucoup d'aller-retour.
Et alors, est-ce qu'il y a eu des découvertes sur le terrain de cette grande question ? Qu'est-ce que c'est lire un roman ?
Disons, par rapport à l'écriture pour le théâtre, il y a quelque chose qui change énormément, c'est le fait d'avoir carte blanche en termes fictionnels.
Le champ des possibles est plus vaste. On peut même faire intervenir Julia Roberts, par exemple.
Exactement. Il suffit de l'écrire et ça existe. Alors qu'au théâtre, c'est un peu plus compliqué. Donc ça, il y a une forme de très grande liberté là-dedans. Et après, l'activité, elle doit passer ailleurs que par le jeu des acteurs et que par ce qu'on propose sur scène. Donc oui, c'est autre chose.
Je vous propose qu'on écoute l'écrivain et philosophe Tristan Garcia. C'était sur France Culture en 2016. Il réfléchissait justement à la spécificité de ce qu'est un personnage dans le roman.
Ce qui est beau dans le roman, c'est le fait de parvenir à créer des personnages, effectivement, dont la conscience n'est pas adéquate au réel. Tout simplement, je crois, parce que le roman est un des lieux où on peut considérer, on peut arriver à percevoir le fait que profondément, le réel, c'est ce qui n'a pas besoin de nous. Le réel, c'est ce qui ne nous rend pas nécessaire, parce que le réel est là de toute manière. Quoi qu'on fasse, le réel est là. On n'a pas besoin de le soutenir. Et dans le roman, je trouve qu'on peut prendre conscience de ce fait, c'est-à-dire, puisque le réel n'a pas besoin de nous, alors tournons vers ce qui a besoin de nous. Qu'est-ce qui a besoin de nous ? Le possible a besoin de nous, en revanche. Parce que si on ne soutient pas le possible, il n'est pas certain que ça soit encore possible. Et j'aime beaucoup l'idée que les personnages de roman sont, au fond, là pour soutenir contre le réel ce qui peut être, mais qui n'est pas.
Et pourquoi tu lui envoies pas, dit soudain A au déboté. De quoi ? Ta pièce ? Ah oui, dis-je. À qui ? À Julia Roberts. Pourquoi t'envoies pas ta pièce à Julia Roberts ? M'éclaira-t-il. Ah ! Je ris brièvement. A me regardait droit dans les yeux. Quelque chose de particulier semblait se passer dans sa tête. Je le regardais également droit dans les yeux, en essayant de comprendre ce qui se passait dans sa tête. Et soudain, je compris. Tu veux dire pourquoi j'envoie pas ma pièce à Julia Roberts, vraiment ? C'est exactement ce que j'ai dit, fit-il, inexorable. Je pris un instant pour ajuster ma perspective. Elle était un peu embrouillée par le fait que j'avais déjà eu des pensées cousines. Il fallait que je les distingue. J'avais d'abord mis en relation Julia Roberts et ma pièce d'une toute autre manière, en tant que pensée juste et vraie et non en tant que chose faisable dans la vie. Et maintenant, A me suggérait d'envoyer Théâtre et Amitié à Julia Roberts, concrètement. Je me concentrais pour penser cette pensée de cette manière-là. Et à un moment, elle m'apparut. C'était une idée démente. Elle ouvrait carrément sur une autre dimension, une dimension exaltante. Je ne perdais pas de vue qu'il était plus qu'improbable qu'un envoi en provenance de moi, qui suis personne, parvienne jusqu'à elle, mais ça n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était ce qu'il y avait d'exaltant à en envisager le projet. Et c'était ce que cette exaltation avait de plus général aussi. Un monde où il est envisageable d'envoyer sa pièce à Julia Roberts, qui sait quelles autres merveilles on peut y faire. Je viens de lire un extrait de votre texte, Nicolas Doutet. On est dans la première partie du roman. Un passage où le narrateur, en première personne, à ce moment-là du livre, a cette idée improbable, sur la suggestion d'un ami, d'envoyer son texte à Julia Roberts. Donc, juste avant, on a entendu Tristan Garcia qui disait que le rôle d'un personnage dans un roman, c'était de soutenir le possible. Le réel, lui, est toujours là, quoi qu'on fasse. Mais dans un roman, un personnage peut soutenir le possible. Est-ce que c'est ça que fait Julia Roberts dans ce texte ?
Tout à fait. Oui, absolument, tout à fait. C'est-à-dire que c'est comme un nom de l'impossible, on pourrait dire. C'est ça, c'est comment l'impossible devient possible. On pourrait dire que un des enjeux du roman, c'était ça, c'était de mettre en relation l'ordinaire et l'extraordinaire, ce qui arrive, ce qui se passe et ce qu'on ne fait qu'imaginer d'habitude. Et là, de voir comment il pourrait y avoir une continuité. Non pas pour dire de l'impossible arrive tout le temps, évidemment ça n'arrive pas tout le temps, mais comme une expérience de pensée et aussi pour stimuler des actions, pour envisager, agir en tant que tel, en tant que des choses peuvent arriver. Donc oui, c'est tout à fait ça. Et le réel peut suivre, en tout cas dans un roman. Le réel peut suivre.
Et très concrètement, comment, pourquoi, de quelle manière est-ce que Julia Roberts s'est mise à incarner cette chose-là pour vous ? Comment elle arrive sous votre plume, quoi, concrètement ?
Très concrètement, c'est ce que je raconte dans les premières pages du livre, mais arrivé, c'est-à-dire que je pensais à cette pièce qui allait peut-être bientôt être jouée, et je suis tombé à la télévision sur un film avec Julia Roberts, et je me suis dit qu'elle serait formidable dans une de mes pièces. Pour de vrai. Sans bien sûr penser quoi que ce soit après ça, mais en me le disant vraiment. Et après, je me suis dit, peut-être, c'est même ma compagne qui m'a dit, attends, pourquoi tu n'écrirais pas quelque chose là-dessus ? Et en fait, après, c'est trouver un équilibre entre une idée suffisamment improbable et un traitement suffisamment sérieux. Voir quel est comment est-ce que justement mettre en jeu quelque chose de l'ordre du possible et de l'ordre de l'expérience de pensée. que oui. l'expérience de pensée elle-même soit possiblement intéressante.
Ouais, et c'est ce qui fait la saveur du livre, hein, c'est qu'on bascule tout le temps entre. Il y a évidemment une dimension très comique dans le fait de voir ce personnage d'auteur dramatique qui n'est personne, comme il est dit, s'imaginer que Julia Roberts pourrait lire sa pièce. Puis, quand plus tard, sans trop en révéler, Julia Roberts, il se trouve qu'elle va lire cette pièce et qu'elle est absolument enthousiasmée et qu'elle la commente en des termes d'une finesse rare. Évidemment, ce jeu-là produit un effet d'autant plus comique qu'on sait, qu'on devine que vous êtes vous-même auteur dramatique. Non seulement vous êtes auteur dramatique, mais le titre même de cette pièce est une pièce que vous avez réellement écrite et son texte qui est retranscrit plus tard dans le roman est le véritable texte de cette pièce. Mais il y a autre chose qui se produit aussi au fur et à mesure de notre lecture, de notre avancée dans le roman. C'est ce que je disais pour commencer. Il y a quelque chose de l'ordre d'une adhésion qui produit un effet d'un autre ordre. Comment est-ce qu'on pourrait le décrire, cet effet-là?
Je ne saurais pas trop dire. En tout cas, un des horizons moi qui me stimulait à l'écriture, c'était de me dire comment on lit quelque chose dont on sait très clairement que c'est faux et qu'on ne peut pas y croire. Et pourtant, c'est décrit de façon très sérieuse, au plus près du réel, etc. Quel est l'endroit de lecture que ça vient toucher, que ça vient donc c'est, je ne sais pas si ça répond à la question, mais
si si. Mmh. Ouais. Je voulais qu'on entende aussi le texte parce que on entend, j'espère même dans ce petit extrait, que il a un rythme très particulier et qu'il est fait d'une matière très particulière qui est quelque chose comme un flux de conscience, mais je ne sais pas si le terme est tout à fait juste. En tout cas, on est dans le rythme de la pensée de ce personnage. Qu'est-ce que ça vous permet, ça? Comment vous avez travaillé ça?
Se situer dans la pensée du personnage, pour moi, c'est une ressource. Enfin, je trouve que c'est une ressource formidable parce que on ne sait jamais ce qu'on va penser après. C'est une manière de se placer dans l'ordinaire de la vie telle qu'elle est vécue par tout le monde, me semble-t-il. C'est-à-dire, on est tous pris dans des flux permanents et on ne sait jamais trop comment, qu'est-ce qui va arriver après. Donc il y a une espèce de suspense, mais vraiment de micro-suspense hyper commun qui est le peut-être le personnage principal, j'en sais rien, mais en tout cas qui est effectivement la matière du roman. Le commun m'intéresse. Travailler sur du commun, travailler non pas sur. Alors là, il y a aussi du hors du commun, mais qu'on aborde à travers du commun.
Il y a un chapitre, il me semble, où vous parlez de. Vous avez cette expression du cours ordinaire de la vie, qui incarne dans le livre la façon dont justement dans le flux de nos pensées se coexistent des choses qui sont d'un ordre tout à fait différent, parfois très prosaïque et sans hiérarchie au fond.
Absolument, absolument. Et parfois aussi, on est traversé par des pensées pas toujours très réfléchies, pas toujours très. Mais c'est ce qui fait le charme de l'existence, on pourrait dire aussi.
Le Book Club, c'est aussi une communauté de lecteurs, de lectrices qui lisent parfois les livres dont nous parlons avant même que nous en parlions. Je voudrais qu'on écoute Christina. Elle a lu ce roman, Une relation phénoménale, et elle vous adresse une question, Nicolas Doutet.
Bonjour le Book Club, bonjour Nicolas Doutet. Dans une relation phénoménale, je pense que vous partez d'un fantasme d'auteur, voir une star hollywoodienne s'emparer de son texte. Et vous le traitez avec un sérieux presque surréaliste. Ce qui m'a frappé, c'est la manière dont l'absurde est toujours à hauteur d'homme. Derrière l'humour très fin, presque sec, se dessine une réflexion sur le désir de la reconnaissance et la fragilité des rêves artistiques, quand ils rencontrent le réel. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, quand vous faites basculer un souhait improbable dans la réalité, est-ce que pour vous c'est une manière de croire encore au pouvoir magique de la fiction, ou au contraire, de faire rentrer, de mettre à nu les illusions qui accompagnent notre monde actuel? Merci beaucoup.
Merci à vous. Christina, Nicolas Doutet.
Je vais dire les deux. C'est à la fois. Alors, je dirais peut-être pas le pouvoir magique de la fiction, parce que encore une fois, moi, j'ai toujours cette méfiance ou cette prudence, en tout cas, avec la fiction, qui nous emmène dans un ailleurs, qui viendrait nous soigner de la dureté de la réalité. En tout cas, l'endroit d'écriture qui m'intéresse, c'est pas de faire deux pôles opposés comme ça, c'est plutôt de faire communiquer. Et ce serait plutôt, voilà, ce que je disais tout à l'heure, de produire des expériences de pensée. Donc oui, il y a quand même quelque chose de l'ordre du possible. Du possible peut arriver. Qu'est-ce que c'est que vivre en ayant cette idée-là? Et puis c'est aussi, bien sûr, quelque chose de l'ordre de la critique et de l'autodérision aussi, sur les espoirs qui peuvent animer, dans lesquels on peut s'emballer quand on fait quelque chose. Voilà, avoir aussi la distance vis-à-vis de ça, bien sûr.
Ouais, Christina, elle utilise ce terme de fantasme. Il est intéressant pour parler de ce livre, parce qu'en effet, on est d'une certaine manière dans le fantasme. Nous-mêmes, on projette lecteur que cette idée que Julia Roberts va interpréter votre texte relève du fantasme pour vous, auteur. Mais il y a quelque chose aussi, peut-être, dans notre rapport de nous lecteurs à ce texte ou à toute fiction, qui a à voir avec le fantasme.
Absolument, absolument. Oui, oui, je ne sais pas.
C'est pas facile d'élaborer non, sur
c'est
cette
pas
question.
D'élaborer. Oui, mais c'est alors peut-être si ce serait ça, ce serait de trouver la bonne distance au fantasme. C'est toujours ça. En fait, c'est trouver la bonne distance, mais c'est même de façon plus générale dans le texte, c'est aussi trouver la bonne distance vis-à-vis de ce qu'on propose. On pourrait dire il y a une distinction que j'aime bien, pour revenir un peu sur la question du rire, entre l'ironie et l'humour. Mmh. Où on dit que l'ironie, c'est avoir une distance totale vis-à-vis de ce qu'on dit, c'est-à-dire penser l'inverse de ce qu'on dit, et ça produit du rire par négation. Dans l'humour, à la fois, il y a une distance vis-à-vis de ce qu'on dit, mais en même temps, on maintient ce qu'on dit.
Ouais.
Et ce jeu-là, cette juste distance, enfin moi, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi parce que ça donne de la liberté au lecteur.
Mm.
Qu'on n'est pas en train de dire « je pense ça » ou « il faut penser ça » ou quoi. On crée un espace d'expérience.
Ce que vous dites me fait penser à certains passages du livre où le comique naît, je crois, du fait que je citais ces moments où Julia Roberts commente le texte de cet auteur, narrateur, en des termes qui sont très drôles, parce que la situation même d'imaginer une star hollywoodienne commentant de manière si fine une pièce qui relève dans son écriture d'une forme d'avant-garde est extraordinairement comique. Et en même temps, ce qu'elle dit est tout à fait juste en un sens et produit, je crois, cette forme de réflexivité dont je parlais. C'est-à-dire que quand on lit ça, on se met aussi à regarder ces phrases sur un plan tout à fait sérieux, au fond. Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous avez travaillé, vous ?
Absolument, absolument. Même pour revenir, pour continuer sur l'humour, c'est cet endroit-là. C'est-à-dire que l'endroit moi, que je trouve le plus intéressant, c'est l'endroit où le rire est à la fois extraordinairement sérieux.
Mmh.
C'est ce que disait Christina, je crois,
ouais.
Qui disait que c'est le sérieux qui est surréaliste.
Oui, oui, bah, exactement.
C'est cet endroit, moi, qui me, en tant que spectateur, en tant que lecteur, c'est cet endroit-là qui me plaît.
Ouais, oui, oui. Elle utilise le mot surréaliste. Moi, j'ai pensé aussi à l'idée du merveilleux. Et d'ailleurs, dans le passage que je lisais tout à l'heure, le mot est employé. Hein. Julia Roberts, d'une certaine manière, on pourrait dire que c'est un personnage merveilleux, mais au sens du terme, au sens littéraire du terme. C'est une sorte de fée. D'ailleurs, elle a incarné une fée, Julia Roberts, dans le film de Steven Spielberg, absolument, dans Hook. Est-ce que pour travailler le personnage, vous y avez pensé aussi comme ça?
Absolument, oui. Ouais. C'est vraiment un télescopage de dimensions. Le monde de Julia Roberts, celle qu'il est fantasmée par ce narrateur, et puis l'ordinaire commun, pour le coup, là, partagé par beaucoup plus de personnes. Mais c'est peut-être plus que le merveilleux, du coup, c'est le fantastique. C'est-à-dire, c'est la rencontre entre les deux.
Ouais.
C'est quand le merveilleux fait intrusion dans le réel, et comment peu à peu, ce qu'on croyait impossible, intègre le tissu de la réalité.
Ça vous fait penser à quelque chose, ouais, qui va vous revenir.
Ouais.
Il y a aussi quelque chose quand même avec de très singulier qui se passe avec ce personnage, tout merveilleux soit-il, c'est que nous, lecteurs, on a aussi quand même une image, forcément. On a forcément vu Julia Roberts, au moins dans un film ou deux. Quand il est question, dans le livre, du sourire de Julia Roberts, on peut mettre une image réelle, entre guillemets, en tout cas celle de notre souvenir, sur ça. Est-ce que c'est quelque chose... Qu'est-ce que ça vous permet, cette chose-là, que nous, lecteurs, on soit renvoyés à cette image-là?
Là, pour le coup, peut-être c'est le seul endroit du roman où il y a vraiment une description où il fallait pas trop que je me rate dans la description, parce que voilà, effectivement, tout le monde a des images d'elle. Donc c'était trouver à la fois quelque chose de l'ordre de la reconnaissance, peut-être, mais en même temps quelque chose de l'ordre de la nouveauté, enfin de l'apparition. Et puis, ce à quoi je pensais tout à l'heure me revient, Julia Roberts, c'est quelque chose qui est très fort dans sa filmographie, c'est ce rapport entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Donc on pense à ses premiers films, à Pretty Woman, même dans la série de Ocean's Eleven, je ne sais plus lequel, elle joue quelqu'un d'ordinaire qui ressemble à l'actrice mondialement connue Julia Roberts, qui se fait passer pour Julia Roberts. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans ses rôles, et aussi peut-être dans sa manière. À la fois, elle a quelque chose de très altier, de très, bon, on peut qualifier comme on veut, et aussi quelque chose de très ordinaire, de très comique, de très prosaïque.
Très ancré.
Très ancré, voilà, c'est ça. C'est un endroit...
On parle depuis le début de cette conversation des liens entre l'écriture romanesque et l'écriture théâtrale d'une façon ou d'une autre. Je voudrais qu'on écoute l'autrice Alice Zeniter. C'était dans une archive diffusée sur France Inter en 2013. Elle était au micro de Laura Lerre.
Quand j'écris toute seule un texte qui est destiné au papier, je dois penser au rayonnement que vont avoir les mots en partageant la tâche entre ce que moi j'écris et la réception qu'auront les lecteurs et les lectrices. Et de me dire, voilà, je mâche pas le travail à chaque fois, je laisse aussi une part d'interprétation et puis de saisissement des choses, mais ça se joue quand même sur une rencontre à mi-chemin sur la page entre lecteur et lectrice et moi. Si j'écris pour que ce soit joué, il va falloir que je laisse encore plus de place parce que ces mots-là, ils vont être transformés par une voix, par un corps, par un rythme. Et donc, ça va ajouter des sous-couches. Et donc, d'une certaine manière, il faut que j'écrive un peu moins pour que j'accepte que cette écriture du sens qui vient avec l'interprétation des comédiens et des comédiennes, elle ait une place et elle ne soit pas là en redondance du travail d'écriture sur le papier.
Il faut que j'écrive un peu moins, dit Alice Zeniter lorsqu'elle écrit pour le théâtre. Est-ce que c'est une sensation que vous avez eue à écrire ce roman, Nicolas Doutet ? Est-ce que ça demande d'écrire plus ?
Oui, effectivement. Ben, la lecture, j'ai l'impression que quand on lit un roman, il y a quelque chose de l'ordre du développement. Quelque chose se développe, on amasse des informations qui roule sur le moment de la lecture, sur la phrase qu'on est en train de lire, mais il y a quelque chose de l'ordre du roulement et du développement. Donc oui, il faut développer, il faut... voilà, c'est, par exemple, moi j'ai été très surpris en écrivant, je me suis vraiment posé la question de la description. Pourquoi est-ce qu'il faut décrire, en fait, à quoi ça sert de décrire quelque chose quand il n'y a pas d'action, etc. Question qui n'arrive pas au théâtre, enfin, en tout cas dans la manière dont j'écris. Donc c'est effectivement très différent. Et dans l'écriture théâtrale, oui, il y a quelque chose qui doit être... je sais pas comment dire, ça doit être très... Enfin, j'ai l'impression qu'il faut chercher une forme d'épure aussi pour faire en sorte que les acteurs n'aient pas des choses de 8 tonnes à dire sur le plateau, mais que ça soit actif, que ça reste actif et que ça fasse jouer.
Et par exemple, du coup, très concrètement, pour travailler les descriptions dans ce roman, quel problème ça vous a posé ? Je pense il y a en effet des descriptions dans le roman. Je pense à un moment où est décrite notamment, en termes assez précis, la demeure de cette Julia Roberts que nous découvrons au bord de sa piscine et même dans sa piscine. Quelle difficulté spécifique ça a posé à l'auteur dramatique que vous êtes et qui n'a donc pas nécessairement l'habitude d'écrire des descriptions ?
La question, c'était comment faire en sorte que la description ne soit pas juste une information. C'est-à-dire que d'un point de vue informationnel, il suffit de décrire, bon ben on est dans le rang de Julia Roberts, et puis voilà. Donc qu'est-ce qui se joue, très concrètement, phrase par phrase, dans le passage d'une phrase après l'autre, etc. Qu'est-ce qui s'agite de la relation de lecture voilà, donc j'ai essayé quelque chose.
Ce qui s'agite dans la relation de lecture, entre autres choses, dans ce livre, il me semble, c'est, on a commencé à en parler tout à l'heure, un rapport au temps. Il y a beaucoup de situations que vous mettez en scène où le temps est comme diffracté. D'ailleurs, ça commence par une description très drôle du narrateur qui a un rendez-vous téléphonique. Il explique en quoi, pour lui, le rendez-vous téléphonique est une chose très douloureuse. Et on le voit attendre ce rendez-vous qui est sans cesse reporté, qui n'arrive pas, qui arrive une heure et demie plus tard, et puis encore plus tard, etc. Et le temps, comme ça, est distendu. Ce motif-là va revenir à plusieurs moments du livre. En quoi ça vous plaît, ce travail-là? Oui, de distorsion presque du temps.
Alors, il n'y était pas conscient, en l'écrivant, voilà, mais maintenant que vous le dites, je crois que je vois à quoi ça renvoie. C'est aussi une manière de jouer, oui, effectivement, dans la relation de lecture, de jouer avec différentes formes de suspense, de jouer avec différentes formes d'attentes, de résolution des attentes, d'attentes qui ne se résolvent pas, de suspense, de faux suspense. Par exemple, il y a des choses où on sait très bien qu'elles vont arriver, mais quand même on les voit arriver, puis quelque chose se passe dans leur advenue. Des choses, on est surpris. À l'inverse, parfois il y a des apparitions comme ça. C'est une manière de, oui, je sais pas comment dire, de maintenir la relation vive. On pourrait dire la relation de lecture, oui.
Il y a quelque chose de très à la fois savoureux et singulier aussi, il me semble, dans votre écriture, dans ce roman-là, Nicolas Doutet. C'est une forme de travail sur l'oralité. Moi, je me suis surprise à avoir envie de lire ce texte à voix haute. Par moments, ça arrive parfois, mais là, de manière assez singulière. Et ça se joue à plein de niveaux différents, notamment dans le fait qu'à un moment, le texte qu'a écrit cet auteur dramatique arrive dans le roman, et ce texte, c'est un dialogue entre deux personnages, Pierre et Paul. Comment vous avez travaillé ça? Je crois que l'idée est même formulée à un moment du livre, je ne me souviens plus exactement en quels termes, mais sur le fait que l'oralité, ce n'est pas nécessairement écrire, adopter une face, voilà, une manière proche de la manière dont les gens parlent, s'expriment. Mais tout de même, il y a quelque chose qui appelle une forme, de lecture orale.
Alors effectivement, je pense pas que ce soit dans la reproduction, en tout cas pour l'écriture théâtrale, là vous parlez de la pièce, je pense pas que ce soit dans la reproduction des scories ou du phrasé naturel, entre guillemets, mais il me semble que l'oralité a plus à voir, en tout cas c'est comme ça que je l'aborde dans cette pièce-là, a plus à voir avec ce qui est actif dans une phrase. Ce qui fait que cette phrase dite produit quelque chose, ou témoigne d'un changement, ou agit sur l'interlocuteur. Donc en fait, c'est plutôt quelque chose de très droit ou debout dans la phrase, contrairement à des phrases, des phrases proustiennes qui sont des phrases allongées. Puis même c'est pas forcément une question de longueur, mais c'est une question de construction de la pensée ou de voilà. Là c'est plutôt des phrases très droites. Ouais.
La phrase comme une pensée en acte, comme quelque chose qui agit. Absolument. Littéralement comme un acteur agit sur une scène. Il y a une construction intéressante de ce point de vue-là dans le livre. L'extrait que je lisais tout à l'heure donnait à entendre qu'on est d'abord dans un récit en première personne. On est dans la tête de ce personnage proche de vous qui est auteur dramatique. Puis dans une deuxième partie du livre, on va basculer complètement dans le point de vue d'un autre personnage qui est Monsieur Gustave. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est Monsieur Gustave et comment il est arrivé dans la construction de ce roman?
Monsieur Gustave, c'est un personnage dont j'avais besoin pour la fiction. C'est le traducteur personnel de Julia Roberts. Donc on imagine que Julia Roberts a un traducteur, peut-être pas par langue, mais en tout cas plusieurs traducteurs, qui viennent lui traduire des textes qui lui sont adressés dans toutes les langues du monde, vu que c'est une star planétaire. Et donc Monsieur Gustave vient lui traduire des textes en français. Et elle a choisi Monsieur Gustave parce que son nom lui inspirait confiance. Voilà. Je dis ça pour moi, Flaubert, évidemment, c'est une référence importante, justement sur toutes ces questions d'humour, de distance, etc. Et Monsieur Gustave, peut-être on parlait de possible et de réel, lui n'est pas follement enthousiasmé par la pièce. Voilà, donc il incarne, on pourrait dire, un petit peu le réel dans le balancement entre le rêve et le réel.
On va écouter un deuxième extrait de votre texte, justement. Nous sommes dans le point de vue de Monsieur Gustave. Il est au bord de la piscine de Julia Roberts. Il vient de lui lire une première partie de cette pièce qu'elle a donc reçue par la poste. Et puis, il va poursuivre sa lecture et il nous fait part de ses impressions. Quand ce fut fini, elle demanda si c'était fini. « It is finished », confirma M. Gustave, qui constata de nouveau la brièveté de la pièce. C'était plus une piécette. Julia Roberts hocha la tête. « It's good », dit-elle. Elle regarda M. Gustave, qui ne moufta pas, assis sur sa chaise, derrière son petit bureau. « It's very good », poursuivit-elle. Elle réfléchit à une manière de partager plus précisément ses impressions. Ça n'était pas facile, c'était des impressions nouvelles. Elle était debout dans l'eau, les mains sur les hanches, immobile, cherchant. « It makes me think of Buster Keaton. Everything moves. » Ça me fait penser à Buster Keaton. Tout bouge. Monsieur Gustave était largué. Ça lui semblait sorti de nulle part, ça n'avait rien à voir avec Buster Keaton. Ce qui l'avait frappé, lui, pendant cette lecture, où pour ces questions de variation de volume, il avait prêté une attention particulière aux didascalies d'énonciation, c'était qu'il arrivait souvent qu'elles se répètent, qu'on ait deux fois de suite le même nom. Il le fit remarquer. C'était le cas dès le début. Paul disait une réplique, ensuite Pierre répondait, et ensuite c'était encore Pierre. Et ensuite encore c'était Pierre. Et seulement après, de nouveau Paul. Il relut pour preuve. Paul, il y a un problème. Pierre, écoutez Paul, vous ne pouvez pas dire que c'est un problème. Pierre, comment cela Paul? Il n'y a aucun problème. Pierre, cette pomme m'a fait du bien, j'avais faim. Paul, cher Pierre, je passe un excellent séjour. Si Pierre disait effectivement ces trois répliques, il suffisait de les réunir et de n'écrire Pierre qu'une seule fois. Là, on avait un peu l'impression que le texte était distribué au hasard, ou que l'auteur avait oublié quelque chose ou s'était trompé et ne s'était même pas relu. C'est un des passages du livre qui donne à entendre, j'espère, pourquoi on peut avoir envie de le lire à haute voix, même pour le comprendre, même pour voilà, se donner à entendre à soi-même la manière dont ces pensées internes, en l'occurrence de Monsieur Gustave, fonctionnent. Est-ce que vous saviez d'emblée que vous alliez inscrire dans ce roman le texte de cette pièce qui existe par ailleurs, qui est publiée par ailleurs et qui s'appelle Théâtre et Amitié? Est-ce que c'était l'un des moteurs?
L'un des moteurs, en tout cas, était effectivement de partir d'une vraie pièce, de pas faire une fausse pièce. Je savais pas, par contre, si elle y serait en entier. Voilà, donc là, il y a des extraits. La question s'est résolue à la fin. Voilà, jusqu'à la fin, je savais pas si toute la pièce figurerait. C'est une pièce très courte, hein, je tiens à préciser.
Oui, et il y a de larges extraits. Pour finir, elle y est en entier complètement à un moment où on assiste à la représentation de cette pièce. Et alors là, il se passe un phénomène qui est vraiment à plusieurs bandes. D'ailleurs, il est question d'un billard, je crois, à un moment dans cette pièce. Il y a un jeu qui se produit entre nous, lecteurs, qui assistons à la transcription d'une pièce et on se met à se représenter la mise en scène de cette pièce de manière très singulière. Est-ce que vous pouvez décrire la manière dont vous avez travaillé ça? Qu'est-ce que vous vouliez produire dans ce passage-là, chez votre lecteur, Nicolas Doutet?
Ça prend place dans un chapitre où j'ai essayé de retracer un petit peu la construction d'un spectacle. C'est-à-dire que le texte étant écrit, quelles sont toutes les nombreuses étapes qui mènent jusqu'à un spectacle. C'est un travail extrêmement collectif. C'est un travail où beaucoup de personnes interviennent, pensent, contribuent, proposent. Et j'avais envie que, voilà, de partager ça. De partager ça et dans l'expérience de lecture qu'on puisse à la fois avoir accès au texte mais aussi avoir accès à toutes ces contributions qui font la nature théâtrale du théâtre.
Ouais, il y a un effet de jeu entre les coulisses aussi, hein, la préparation du spectacle d'une couturière qui d'ailleurs n'a pas lieu. On sent de votre part quelque chose comme un hommage pour le coup très premier degré à ce qu'est l'art du théâtre, au fond.
Absolument. Absolument. Tout à fait premier degré. Oui, c'est quelque chose de phénoménal. Non, mais le terme vient un peu de là aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment comment de l'écriture, par la grâce de la contribution de toutes ces personnes-là, peut rentrer dans une relation phénoménale, voilà, spatio-temporelle, très concrète.
D'ailleurs, ce titre, Une relation phénoménale, on n'en a pas parlé jusque-là, on peut peut-être en dire un petit mot. Il peut se lire, là encore, hein, c'est à plusieurs bandes ou à plusieurs couches, c'est polyphonique, comme on dit. Il y a le côté phénoménal de l'apparition de Julia Roberts qui est merveilleuse, mais il y a plein d'autres choses aussi. Moi, je pense qu'on peut y entendre aussi quelque chose de philosophique. Enfin, on entend aussi la phénoménologie des choses. Comment vous l'entendez, ce titre?
Absolument, sur la question de la phénoménologie, tout à fait, c'est-à-dire la phénoménologie dont le caractère phénoménal de nos pensées, la manière dont on avance dans l'existence et dans le quotidien, et on en parlait tout à l'heure, se produit peu à peu tout le temps. Il y a la question de la relation, des relations d'amitié qui joue un grand rôle à la fois dans la pièce, mais aussi dans l'écriture et dans la fiction. Une relation amoureuse aussi, qui a sa place. La relation, bien sûr, avec Julia Roberts. Et puis la relation, c'est aussi le fait de relater quelque chose. Là, on parlait d'agiter la relation de lecture. Mmh. C'est aussi, voilà, la relation phénoménale, c'est aussi l'objet livre. C'est le fait de lire quelque chose, c'est une relation phénoménale.
Et tout ce qui se passe d'ailleurs dans ce livre, au fond, si on y réfléchit bien, ne se passe que à travers des relations. L'événement n'arrive que par non seulement ce qui se passe entre les personnages, mais même plus profondément ce qui est dit, ce qu'ils échangent comme dialogue.
Absolument, absolument. Mmh. Tout se passe parce qu'ils échangent comme dialogue et aussi comme texte. Il y a beaucoup de scènes de lecture, à la fois de la pièce bien sûr, mais aussi de mails où on n'est pas sûr de comprendre ce qu'on est en train de comprendre, où ça semble complètement fou mais en fait c'est réel, etc. Donc il y a beaucoup de... La lecture est une place importante dans le texte.
La notion même de texte, on pourrait y consacrer toute une autre émission, mais l'heure tourne, le book club continue.
France Culture, le book club, Mathilde Wagman.
Et comme chaque mardi à 7h, c'est le moment de s'intéresser à la littérature jeunesse avec vous, Raphaël Bod. Bonjour Raphaël.
Bonjour Mathilde.
Nous profitons aujourd'hui d'une sortie en format poche aux éditions Versant Sud pour découvrir une héroïne d'Astrid Lindgren, bien moins connue que la cultissime Fifi Brin d'Acier.
Et voici Lota, une têtue pleine de ressources. Ses aventures sont sorties pour la première fois en 1958 en Suède. Et c'est vrai que cette Lota, elle est un petit peu dans l'ombre de Fifi. Pour affiner les présentations, je vais m'appuyer sur les couvertures de ces deux livres consacrés à ses aventures. Sur le premier, on voit cette gamine se balancer, la tête en bas à une branche d'arbre, la jupe qui lui tombe sur le visage et son regard espiègle. Sur le deuxième, la voici à califourchon sur un immense vélo, les couettes dressées sur la tête et sur les deux, bien sûr, son doudou, un cochon rose tout prêt.
On imagine donc une petite gamine assez malicieuse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce personnage?
Eh bien, en quelques mots, Mathilde, elle a 4 ans au début. C'est la Benjamine d'une famille. Et si je commence par vous la présenter comme ça, comme la petite dernière, c'est parce que cette place dans la fratrie façonne sa personnalité. Son grand frère Jonas et sa grande sœur Mia Maria la chouchoutent autant qu'il l'asticote. Et surtout, Lota passe une grande partie de son temps à faire la grande et à revendiquer sa capacité à se débrouiller toute seule. D'ailleurs, quand on fait sa connaissance dans le premier chapitre du premier livre, elle s'installe sous la pluie, sur un tas de fumier, en imaginant qu'elle pourra ainsi grandir plus vite. Bref, elle sautille, elle boude, elle pique des colères, elle fait sa maline. Elle est assez irrésistible et il faut bien le dire, très drôle. Ces livres, en fait, se composent d'histoires assez courtes qui peuvent se lire de façon indépendante. Ce sont des chroniques de la vie quotidienne, des scènes cocasses, des jeux, des disputes, des réflexions, des aventures. Forcément, elle est souvent de mauvaise humeur, elle fait aussi preuve de beaucoup de mauvaise foi. Elle grandit dans une famille assez classique, elle habite une maison jaune dans une petite ville suédoise, elle rend régulièrement visite à sa vieille voisine, Madame Berg. Il y a quelque chose de doux et rassurant, sans pour autant être figé dans une époque révolue. Ce texte a une forme d'intemporalité qui tient en grande partie au ton d'Astrid Lindgren.
Astrid Lindgren, c'est la grande dame de la littérature jeunesse. Elle est née en 1907 en Suède. Elle est décédée il y a plus de 20 ans maintenant. L'équivalent du prix Nobel pour la littérature jeunesse porte son nom également. C'est dire comment est-ce qu'on pourrait qualifier la singularité de son ton.
Eh bien, rappelons qu'Astrid Lindgren, elle se lance en littérature jeunesse à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Et dès ses premiers ouvrages, elle innove. Elle met l'enfant au premier plan et raconte les histoires de leur point de vue. Elle déborde d'empathie pour eux et cela se sent dans sa façon de considérer ses personnages. Ses héros et héroïnes ont une voix bien à eux. Ils pensent par eux-mêmes, ils désobéissent, ils transgressent. Elle se permet de placer les adultes au second plan et ainsi elle évacue les propos moraux et éducatifs.
C'était le cas notamment avec Fifi Brin d'Acier, qui est donc son héroïne la plus célèbre.
La plus célèbre. Et finalement, c'est aussi le cas avec Lota, parce que Fifi, donc, elle vit seule dans sa maison, sa mère est décédée, son père est capitaine de bateau, tout est permis. Il y a même un peu de fantastique, puisque Fifi a une force surhumaine. Et avec Lota, eh bien, on est dans une veine bien plus réaliste, plus quotidienne, où l'on pourrait presque s'attendre à avoir une présence des parents plus forte.
Moi, je ne connaissais pas du tout Lota. C'est la première fois qu'on la découvre en France, en fait.
Ben, en fait, Mathilde, il y avait eu des traductions. fin des années 70, que je connaissais pas non plus. Le livre, à l'époque, il était intitulé Julie et Nicolas. Donc, Julie pour Lota. Disons que c'était un peu francisé, un peu affadi. Et dans cette nouvelle traduction, réalisée par Aude Pasquier, les prénoms d'origine sont là, les références culturelles aussi. Et puis, on retrouve vraiment une insolence plus pétillante. Disons que c'est plus théâtral, plus vif. Parce qu'Astrid Lindgren, elle a ce style très oral. Elle joue, par exemple, avec les répétitions. Elle n'imite pas un faux parler enfantin, mais elle réussit à créer une langue qui respire l'enfance, et on retrouve tout ça par ici.
Et puis, ce qui ne gâche rien, c'est une édition illustrée.
Et en plus, par Beatrice Alemania. Donc, ce sont des couleurs, des textures, des jeux avec les proportions, un trait aussi vif que chargé de détails, une rugosité. Donc, ces illustrations jouent avec cet esprit impertinent et joyeux que j'ai essayé de définir depuis le début de cette chronique et qui est vraiment savoureux. Moi, je pense que c'est à lire à voix haute pour des enfants dès 5 ans ou à lire tout seul vers 7-8 ans.
Lota la filoute et Lota sait tout faire sont donc tous deux désormais en format poche aux éditions Belge Versant Sud. Un grand merci Raphaël, toutes ces références et votre chronique sont à retrouver sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France à la page Lecture Jeunesse. Et à cette heure-ci dans l'émission, nous jouons à notre grand jeu des pages musicales. Je vous en rappelle le principe. Si au détour d'une lecture, vous trouvez Nicolas Doutet, la citation d'un passage musical dans un livre, faites-en une petite photo, s'il vous plaît, et envoyez-le nous via le compte Instagram de l'émission ou à l'adresse lebookclub@radiofrance.com. On pioche chaque jour dans vos suggestions pour nous quitter en musique. On a cherché des citations musicales dans votre roman, Nicolas Doutet. On n'en a pas trouvé, même si le narrateur fait partie d'un groupe de musique. Il est question de chansons qu'ils interprètent avec ses amis, mais la mention précise de quelle chanson n'est pas dite. On doit donc la trouvaille musicale du jour à Anne-Cécile, qui nous a envoyé cet extrait du dernier livre de Marie-Hélène Lafon. Le livre s'appelle Hors champ, il a paru chez Buchet-Chastel. Il n'avait vraiment fréquenté qu'une fois, quand il avait 20 ans. Ça n'avait pas duré longtemps et ça s'était mal terminé. Il préférait ne pas y penser. Il avait dû batailler pendant des années pour ne plus se demander quelle vie aurait été la sienne si cette histoire avait tourné autrement. Il aurait fallu quitter la ferme et le pays, laisser la mère seule avec le père, partir en Limagne du côté de Clermont où habitait cette fille qui avait 2 ans de plus que lui. Il ne disait plus jamais son prénom et ça lui tordait toujours le ventre quand il l'entendait à la télévision ou le lisait dans le journal. Il n'avait pas oublié les paroles d'une chanson qui était à la mode à cette époque. « Quoi que je fasse ou que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi. » Il ne se souvenait pas, il ne voulait plus se souvenir s'il avait pensé aux enfants, rêvé d'avoir des enfants. Il n'était pas parti, il n'avait pas laissé la mère et la ferme, il n'avait pas pu, il aurait fallu être quelqu'un d'autre.
Graver l'écorce jusqu'à saigner, clouer les portes, s'emprisonner, vivre des songes à trop veiller, prier des ombres et tant marcher. J'ai beau me j'ai beau l'écrire si noir sur blanc, quoi que je fasse ou que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi.
Un très grand merci Nicolas Doutet d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de ce livre, votre premier roman, Une relation phénoménale. Il a paru aux éditions L'Arbre Vengeur. Je signale que votre pièce Dialogue avec ce qui se passe, créée tout récemment dans une mise en scène d'Adrien Béal, est en tournée. On pourra la voir en mars au Théâtre des 13 Vents à Montpellier, en avril au Théâtre du Bois de l'Aune à Aix en Provence. Un spectacle de Bérangère Ventousse au Faire le Beau auquel vous avez collaboré sera joué au Théâtre public de Montreuil du 12 au 20 mars et une autre de vos pièces, une création qui s'appelle Pensée. Pièce tout public sera créée en juin au Centre National de Tours. Toutes ces informations à retrouver sur le site internet de l'émission. Aujourd'hui à la réalisation, c'était Vivien Demeyère, à la prise de son Nicolas Leroulet. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club et particulièrement aujourd'hui à Lou que vous viviez. Merci aussi à Alexandre Alaibegovic, comme toujours, qui poursuit avec vous la conversation sur le compte Instagram de l'émission.